Eh bien, je suis en ligne avec Yann Le Barayek, fondateur du Motoculteur Festival qui aura lieu à Saint-Nolff du 17 au 19 août prochain. Eh bien, bonjour Yann.
Bonjour.
Alors, ça fait déjà 11 ans hein, que le Motoculteur Festival fait vibrer la Bretagne avec du gros son qui tâche. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un festival plutôt à tendance métal ou hard rock pour être peut-être plus large ?
Métal et hard rock, ouais. Et puis même, on va dire rock and roll pour être métal et rock and roll, quoi. Parce qu'il y a du punk aussi, il peut y avoir du rock, des groupes, des styles, différents styles de rock, même ça peut dériver dans du blues un peu, mais c'est toujours lié dans l'esprit hard rock metal. Quoi.
Alors, depuis le début hein, du festival, les plus grands noms sont venus jouer au Motoculteur, tels que Madball par exemple, Loudblast ou Dacoba pour parler des Français, Buzzcocks aussi dans un registre plus punk, et avant de parler de l'édition 2018 et, qui promet aussi hein, une programmation d'exception, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont vous avez créé ce festival ?
À l'origine, c'était un groupe de musique, c'était le groupe Motoculteur, et puis moi en parallèle de ce groupe-là, qui officiait en 2006, j'organisais beaucoup de... Moi, j'étais bassiste en groupe et à côté, j'organisais beaucoup de concerts. Et un jour, j'ai été... Donc, je faisais ça en amateur. Et un jour, j'ai été... On a été avec l'équipe du festival bénévole sur l'ancien festival de Saint-Neuf. Et du coup, là, c'était pour moi le coup de cœur de voir un festival en plein air. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et à ce moment-là, j'organisais beaucoup de concerts métal. Et je trouvais que, du coup, je me suis dit, je vais faire un festival plein air de métal. Et le nom Motoculteur Festival est venu après, parce qu'on s'est dit que ça sonnait bien et que ça peut être un petit trip de faire dans un premier temps le festival où on fait jouer où la tête d'affiche serait notre propre groupe. Et ça, c'est ce qu'on a fait quand c'était des versions en salle, les premières versions. Puis après, la réalité a fait que si on voulait faire un truc plus professionnel, le groupe s'est mis en stand-by. Et du coup, nous, on a développé le festival pour le faire en plein air comme on le souhaitait. Et on a réussi à venir sur Saint-Neuf à partir 2013, parce que ça n'a pas été facile d'arriver sur le terrain, parce qu'entre le rêve et la réalité, il peut y avoir des obstacles. Mm-hmm. Du coup, nous, on avait commencé à faire nos premières armes en salle en 2007-2008, et on a fait notre première édition plein air en 2010 sur une autre commune à côté de Saint-Neuf. Et après, on a essayé de négocier avec la mairie, et on a réussi à venir sur Saint-Neuf en 2013. On a fait nos preuves d'abord en salle et en plein air ailleurs. Une fois qu'on a pu montrer que ça marchait, qu'il pouvait y avoir un festival, on était sur le seul terrain vraiment viable du côté de Vannes pour faire un réel projet de notre taille.
Et est-ce que à la création, vous imaginiez que comme ça, 11 ans après, vous aurez un tel succès ?
C'est ce qu'on espérait pour faire un truc viable et faire un festival d'entre 5 et 10 000 personnes par jour, mais on ne savait pas si on y arriverait. En tout cas, on disait, on va essayer, puis on verra comment il faut faire et quels sont les obstacles. Mais ça fait depuis 2 ans là, qu'on commence à réussir à figer les choses au niveau de l'implantation du site et tout. Et c'est sûr que ça fait plaisir d'arriver un peu au rêve qu'il y avait en 2006. Quoi.
Alors, malgré tout, hein, j'imagine que ce n'est pas tous les jours facile. D'autant plus que fin 2016, vous avez lancé une campagne de dons hein, pour pouvoir organiser une édition 2017. Vous avez réussi à récolter plus de 66 000 euros en à peine 3 mois. Donc, j'imagine que c'est le genre de chose qui a dû rebooster votre motivation.
Ah oui, c'est de voir il y a 830 donateurs, de voir qu'il y a autant de gens à nous soutenir, ça... Ça a donné un bon coup moral. Après, ça n'a pas aidé à réduire la dette. Ça, c'est prévu d'avance. Ça nous a aidé à éviter la discontinuité, d'avoir la trésorerie, parce qu'on manquait de trésorerie pour continuer. Parce qu'avant, parce que nous, sur la première édition 2010, on avait perdu beaucoup d'argent sur la première édition plein air. Mmh. Et ensuite, on a stabilisé la dette, mais c'était pas évident avec les changements de terrain avant d'arriver à Saint-Neuf, les incertitudes et tout. Et maintenant, les choses se figent et on arrivait à tenir, en fait, avec en négociant des échéanciers avec les prestataires, en lançant la billetterie très tôt, parce que dans le public métal, les gens s'y prennent longtemps à l'avance. Ils viennent souvent de très loin, donc c'est pour ça qu'ils se prennent tôt. Et il y a dans plein d'autres festivals qui ont 20-25 ans d'existence en Europe, et eux, ils annoncent les groupes dès décembre, et du coup, les gens, ils s'organisent très tôt, en fait, pour venir. Donc, c'est pour ça que la billetterie, mettre la billetterie en avance, ça nous aide, nous, pour notre trésorerie, et en même temps, on ouvre la billetterie en même temps que les autres festivals, ce qui est le minimum à faire si on veut que les gens viennent chez nous. Et la troisième chose qui nous aidait en trésorerie, c'est qu'on avait des prêts internes de membres de l'association. qu'on a entre 2010 et 2016, puisqu'on a tout remboursé en septembre 2016. C'est pour ça qu'il y avait l'incertitude sur l'édition 2017 et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour remplacer ces 60 000 euros-là qu'on avait pu, qui nous aidaient à tenir l'hiver, parce que nous, les rentrées d'argent d'un festival, c'est que l'été, et quand on est en déficit, bah, c'est compliqué. Du coup, avec en décalant les échéanciers, en ouvrant la billetterie très tôt et les prêts internes qu'on avait, bah, on arrivait à tenir comme ça et à continuer à faire le festival. Et aujourd'hui, on a plus de partenariats publics, plus de partenariats privés. Donc là, la dette, à partir de cette année, là, on a un plan sur 5 ans pour réduire la dette intégralement. Et on a trouvé des partenaires privés pour nous aider en trésorerie pour remplacer les prêts bancaires. Mais sur l'édition 2017, ce qui n'y en avait pas, ces partenariats-là. Et c'est le crowdfunding qui nous a permis d'avoir cette trésorerie.
Alors, l'année dernière, vous avez aussi été désigné comme étant le deuxième meilleur festival de taille moyenne au Festival Awards. Comme ce classement se fait par le vote des internautes, j'imagine que c'est aussi une grande source de motivation pour vous d'avoir été consacré comme ça deuxième meilleur festival de taille moyenne.
Ah oui, c'est super. On avait gagné en 2015. Mmh. Et du coup, à chaque fois d'être aussi haut comme ça, comparé, on voit qu'on n'est pas loin du festival au bout du monde, des figures dans le... de grosses figures de festivals emblématiques au niveau national, c'est un grand plaisir.
Alors, donc, vous êtes un festival de taille moyenne, comme on disait tout à l'heure, vous pouvez accueillir jusqu'à à peu près 8000 personnes par jour. Donc, ce n'est pas non plus le Hellfest hein, avec ses 150 000 spectateurs. Je sais que vous êtes géographiquement pas très loin. Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué de se faire une place à côté du Hellfest?
C'est les deux. Il y a ce qui facilite les choses, c'est comme le Hellfest, ça se passe super bien depuis dès leur début. Bah, les riverains ou les habitants qui sont, ils écoutent très positif, même des forces, en général la préfecture, les gendarmes, tous les forces de l'ordre, ils ont des avis favorables et qu'à très grande échelle, parce que c'est comme tu disais, 60 000 personnes par jour. Et nous, à plus petite échelle, ça a été plus facile pour convaincre les gens de pouvoir faire un festival. Avant, vu qu'à grande échelle, ça marchait bien, les gens ils se sont dit ok pour faire des tests avec vous, et puis ils ont vu que ça marchait aussi avec nous. Donc ça a facilité par rapport aux élus ou à la préfecture, des choses comme ça, des organismes comme ça, qui du coup ils n'avaient pas trop d'a priori négatifs grâce au Hellfest. Après là où c'est plus compliqué, c'est pour la programmation. Des fois c'est un peu dur d'avoir des groupes, parce que le Hellfest c'est une jauge plus importante. Ils peuvent faire des propositions financières plus importantes aux groupes, ce qui fait qu'après les groupes ils ont pas spécialement envie de venir chez nous, parce qu'ils peuvent aller chez le voisin avec des meilleures questions. Alors, donc c'est compliqué.
Alors justement, programmation...
Il faut trouver des stratégies, négocier, et c'est pas toujours facile.
Alors justement, la programmation, il va temps d'y venir. Qu'est-ce que nous réserve de beau l'année 2018?
Alors l'année... Je crois que c'est pas 2019, maintenant. Et là, sur 2018, on est assez fiers d'avoir réussi à faire Sepultura, Tambour du Bronx, un show spécial entre ces deux artistes, qui est unique en Europe, ça s'est jamais fait. Ils ont déjà fait ça en Amérique du Sud, une tournée spéciale avec les Tambours du Bronx et Sepultura. Et là, du coup, on a réussi à les faire sur la même journée. Et ils vont faire un show spécial le dimanche 19 août. Donc ça, c'est assez... ça s'est jamais fait en Europe. Donc ça, c'est un peu notre fierté, là. Après, on a, au niveau programmation, en tête d'affiche, on a BMOS, Ministry, Alice Storm, des groupes assez connus de la scène métal qui remplissent bien. Pour les groupes un peu plus pointus dans notre genre, on a Trisomy 21 en Cold Wave, qui est un groupe des années 80 et qui marche super bien en salle et qui est un peu un peu décalé par rapport à la programmation, mais en même temps c'est lié parce que c'est hyper sombre et que nos festivaliers ont l'habitude d'avoir des groupes un peu atypiques dans la programmation. Donc là on fait une journée sur le vendredi Young Guts, Trisomy 21 et Ministry, donc c'est un peu dans, on va dire, la thématique Indus. Gothique un peu. Et du coup, j'espère que cette journée-là, les trois jours marchent bien au niveau billetterie. Donc là, on est parti pour faire une année record. Donc je pense que la programmation, elle a l'air de plaire beaucoup. Après, on a samedi, on a BMOS et Abbas et Cannibal Corpse aussi. dans les principaux groupes. Et le dimanche, en plus des Tambours du Bronx et c'est plus pira, on a en groupe qui ouvre un petit peu la programmation, il y a Perturbator, c'est un artiste qui vient du black metal, qui fait de l'électro. Et on a le bluesman Topa Chobi, on a Phil Campbell, le bras droit de Motorhead. Du coup, c'est assez varié et il y a plein de... On trace assez large dans les styles du metal et du rock.
Eh bien, le Motoculteur Festival aura lieu donc à Saint-Olphe, en Bretagne, du 17 au 19 août prochain. Eh bien, merci Yann.
Merci à vous.